Afrique Hebdo.
Madame, Monsieur, bonjour. Simone Remond avec vous pour Afrique Hebdo. Pour ce troisième numéro spécial, le Congo qui bouge, dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance congolaise. Nous allons aujourd'hui encore à la rencontre de Congolais qui entreprennent dans différents domaines et qui, malgré les problèmes que vit le Congo, malgré les difficultés à surmonter au quotidien, persistent et contribuent ainsi au développement et à l'avenir de leur pays. Nous sommes à Kinshasa, boulevard du 30 juin, dans les bureaux de Jean-Baptiste Moulumba, un ancien de l'ULB qui a fait ses armes dans la recherche notamment et qui dirige aujourd'hui un cabinet d'audit qui a pignon sur rue, la société Coditec. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Ce n'est pas très facile. Si vraiment on veut travailler, disons, en tant que professionnel ou tel comme l'a appris par ailleurs, c'est extrêmement difficile. Et je dois vous dire que personnellement, la ligne de conduite que j'avais adoptée depuis que je suis retourné au pays et créé ma propre société qui s'appelle Coditec, c'est que je n'ai pas voulu travailler avec les sociétés d'État ou bien avec des gens qui ne comprenaient pas ce que c'est que l'audit.
Vous devez être placé parfois dans des situations un peu délicates, disons ça comme ça.
Oui. Parfois, personnellement, je peux vous dire que c'est sur le plan, disons, professionnel que je rencontre des difficultés sérieuses. Prenons par exemple, disons, on me nomme pour 3 ans dans un projet. Et je vais la première année, j'observe un certain nombre de choses, je fais des recommandations. Quand je viens l'année qui vient, il faut absolument, disons, que je fasse faire le suivi des recommandations que j'ai fait l'année dernière. Et quand vous trouvez que tout est en état, qu'on n'a rien fait, etc., tout ça, ça pose vraiment un problème de conscience. Oui. Je gagne ma vie grâce à ça, mais il faut quand même, disons, avoir le courage par moment de dire, non, écoutez, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, ils ne veulent pas que les choses changent. Il faut parfois le courage, disons, de pouvoir remettre le tablier.
Dans une société dont on dit que la corruption y règne quand même très largement, c'est quand même un métier difficile à exercer, non?
La corruption touche à tous les domaines. Je pourrais même vous dire, le comble est que même nous, dans notre métier, qui suivant, disons, les normes professionnelles, il arrive souvent, disons, que les mandats se donnent moyennant corruption, ou bien ce qu'on appelle ici opération retour. Ça veut dire que je vous donne le mandat, mais il faut préserver mes 10, 20%, etc., tout ça. Je dois vous avouer que personnellement, je n'ai jamais rencontré des cas comme ça, mais quand on vit dans un milieu bien déterminé, il faut toujours le savoir.
Alors la société congolaise, que ce soit le secteur social, le secteur économique, est quand même une société assez bloquée. Les choses ne vont pas très bien 50 ans après l'indépendance. Et pourtant, bon, vous êtes là, vous travaillez.
Oui, madame, mais la société congolaise nous appartient à nous tous. Je vous dis, moi personnellement, moi qui vous parle, disons, j'ai fait mes études en Belgique, j'avais commencé à travailler en Belgique, j'ai fait ma formation en tant qu'auditeur en Belgique, j'ai commencé à travailler en Belgique, je gagnais très bien ma vie, mes enfants étaient nés en Belgique, ils sont belges pour le moment, mais à quoi ça sert? J'ai reçu une bourse d'études. J'avais reçu pour aller faire mes études en Belgique une bourse d'études pour aller me former en Belgique. Mais si la Belgique l'a fait, s'il y a eu des contribuables belges qui ont payé pour moi, c'était pour que je puisse venir rendre service à mon pays. À quoi ça aura servi si les Belges qui ont payé pour que je puisse me former, pour venir aider le mien, si je ne dois pas revenir, si on ne doit pas faire, on doit essayer de faire quelque chose? Ce n'est pas par la société corrompue, il faut qu'il y ait toujours un début à quelque chose. Ce début-là, je crois que je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut qu'il y ait quand même un début à tout pour lutter contre ça. Et personnellement, j'ai essayé, j'en ai payé un prix très fort. J'en ai payé un prix très fort, personnellement. Je veux dire que quand on veut rester dans la droiture, vous trouvez souvent sur votre chemin des gens qui ne vous laissent pas faire. Et je crois que j'ai fait pratiquement une année de prison sous le prétexte fallacieux. Ce qu'on voulait, c'était en quelque sorte interrompre ma carrière. Mais comme la vérité est toujours têtue, grâce parfois à l'intervention de amis étrangers, j'ai été blanchi, j'ai été acquitté par la justice, j'ai retrouvé mes fonctions et je continue mes activités comme par le passé.
50 ans d'indépendance, maintenant 50 ans à venir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du Congo?
Madame, l'avenir du Congo, moi, je ne la vois plus pour moi. L'avenir du Congo est derrière pour moi, est derrière pour moi. Mais l'inquiétude, c'est pour mes enfants. Nous qui avons tout reçu, il faut que nous puissions nous faire violence pour essayer, ne fût-ce que laisser à nos enfants, à nos enfants, à nos petits-enfants, une société tant soit peu juste et un état de droit. Nous ne devons pas nous laisser faire.
Vous croyez vraiment que c'est possible?
Oui, madame, à ce sujet-là, je crois que s'il y a plusieurs personnes qui essayent, je crois que c'est possible. Mais si nous tous on se laisse aller, on dit que ça ne changera jamais, c'est comme ça, etc. Eh bien, ça ne changera jamais.
Nous prenons la route, très longue en raison des embouteillages qui paralysent la ville, pour rejoindre l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, dans le service de chirurgie abdominale, où avec le soutien de l'université de Liège et de la coopération Wallonie-Bruxelles internationale, a été créée une unité de chirurgie laparoscopique. Il s'agit d'opérations par les petits trous en quelque sorte, où l'on introduit caméras et instruments plutôt que par des incisions traditionnelles. Le docteur Bertien Sadi s'est pour cela formé au CHU de Liège et aujourd'hui il opère et il forme à son tour des équipes. Nous sommes donc au CUK, les cliniques universitaires de Kinshasa, le sommet de la pyramide de santé. 700 lits, 1660 personnes y travaillent, dont 400 médecins, dans des conditions assez difficiles, comme le confirme le médecin directeur, le professeur François Lépira Bompeka.
Un hôpital universitaire, et surtout par rapport à la recherche et l'enseignement, demande beaucoup de moyens. Nous connaissons des problèmes énormes, parce que comme vous savez, un hôpital universitaire demande un équipement de pointe qui doit être maintenu et entretenu. Les derniers équipements que nous avions reçus datent presque de 20 ans. Et dans la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, c'est le partenariat qui peut nous aider. Et surtout ces partenariats interuniversitaires. Vous savez, dans un environnement difficile comme ça, introduire une nouvelle technique comme la chirurgie celloscopique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, comme directeur de clinique universitaire, je voudrais vraiment remercier les amis de l'Université de Liège et toute la coopération belge pour cette opportunité qu'on nous donne de pouvoir soigner les malades avec des méthodes up-to-date. Je voudrais aussi remercier Dr Bertien Sadi qui, avec les amis de Liège, donne de l'espoir. Parce que je me dis, la médecine, en somme, c'est donner de l'espoir.
Le docteur Bertien Sadi, que nous allons accompagner dans son service.
Donc en fait, vous êtes ici au bloc opératoire des cliniques universitaires de Kinshasa. Donc nous allons bientôt entrer dans la salle d'opération. Vous allez tout simplement mettre vos masques maintenant et puis on est prêt. Voilà.
Cette technique de laparoscopie, est-ce que c'est bien nécessaire dans un pays où finalement le système de santé est quand même en grande difficulté?
Lorsqu'on regarde les choses très simplement, on pourrait se dire, ben, dans un pays où les conditions de travail déjà minimales de base sont relativement difficiles, est-ce qu'il faut se lancer dans une technique de pointe? C'est vrai. Mais lorsqu'on regarde les choses sur un plan purement académique et je ne dirais pas à long terme, mais dans le temps, ben, l'on se rend compte que justement l'Afrique a besoin de la laparoscopie. Et c'est dans les milieux relativement difficiles où on a besoin d'une technique qui remet les patients très rapidement dans sa société. Et nous avons développé ces projets aussi par rapport à cela. Premièrement parce que nous sommes dans une institution de formation, donc nous avons, dans la mesure du possible, le devoir de tenir la ligne au niveau où la science se trouve. Deuxièmement, mais c'est parce que cette technique a démontré des avantages nets et indiscutables où que l'on soit. Et qu'en troisième lieu, là où la population n'a pas assez de moyens, cette technique contribue à diminuer sensiblement le coût de la prise en charge. Alors là, on va réaliser une petite intervention, une intervention simple. Okay. Une appendicectomie, simplement, par celloscopie. Voilà. D'accord. Je pense que moi, je vais y aller. Je peux... Chantal, je pense que tu dois t'occuper rapidement d'installer le... de réinstaller la colonne. Tu peux commencer la désinfection de l'abdomen, s'il te plaît. À l'aide d'une aiguille qu'on appelle l'aiguille de Verrès, on entre dans la cavité péritonéale et on va y injecter du CO2. Chantal, tu peux lancer la situation. La situation, oui. Ok. Voilà. On va sectionner l'appendice. Comme vous avez dit, vous avez vu entre les deux nœuds. J'ai demandé les ciseaux montés sur bistouri pour me permettre de coaguler pendant la section. Voilà. Là, je sors mon appendice par ici. Et je vais le sortir. Je regarde, théoriquement, je ne vais plus rentrer. Il n'y a pas de problème d'hémostase. Eh bien, il ne reste plus qu'à réaliser...
La fermeture.
La fermeture, donc l'exsufflation et la fermeture. OK.
Alors, docteur, une petite pause avant une autre opération va suivre. Oui. Mais une question qui vient quand même à l'esprit. Vous avez été formé à Liège, vous êtes devenu un spécialiste dans votre domaine et vous êtes revenu au Congo où on travaille quand même dans des conditions très difficiles. Par exemple, on regarde l'hôpital, il est vétuste, on fait ce qu'on peut. Mais enfin, c'est quand même pas des conditions de travail semblables à celles que vous pourriez connaître en Europe, par exemple.
Effectivement, et ça c'est le plus grand choc lorsqu'on revient. Et c'est justement une des causes de ce que nous appelons ici, nous, la fuite des cerveaux. On est à un taux de perdition, lorsqu'on voit un tout petit peu les statistiques, de plus de 50%.
Vous êtes revenu. C'est quand même un choix pas facile à faire, non?
Honnêtement, ce n'est pas un choix facile à faire. Il y a des moments où je me pose la question de savoir est-ce que j'ai vraiment fait un bon choix de revenir. Et surtout, lorsqu'on reçoit également la pression des autres, écoute-moi, dans ma promotion, tous ceux avec qui on a terminé, je suis pratiquement ici au clinique universitaire, quasiment le seul. Tout le monde est parti parce qu'effectivement, ils sont découragés, fatigués. Je pense personnellement qu'au fond de moi-même, je ne me trompe pas. Je pense qu'il y a énormément de choses à apporter ici. Et je pense que c'est à chacun d'apporter sa pierre pour relancer les choses. Et je crois que moi, dans le domaine de la santé, aux cliniques universitaires de Kinshasa et dans mon département, et je pense que nous sommes en train d'apporter quelque chose qui donne de l'espoir.
Retour au centre-ville, avenue du Livre. C'est là que nous reçoit Bernard Boukou-Pongo. Boukou, ça veut dire livre, un nom prédestiné, puisque depuis 22 ans, il est à la tête d'Afrique Édition.
Afrique Édition donc est une maison spécialisée dans le livre éducatif, dans le livre scolaire. Et Afrique Édition édite, adapte aussi des ouvrages édités principalement en Belgique et les adapte en fonction du programme scolaire congolais et commercialise ces ouvrages. Alors on les commercialise nous-mêmes ou bien à travers de certains projets internationaux financés par des bailleurs de fonds.
Vous avez une fonction extrêmement importante à l'intérieur du pays.
Nous avons une fonction importante dans le domaine de l'éducation, certainement, parce que effectivement, il n'y a pas, eu un grand développement du secteur de l'éducation. Ceci dit, la tâche est énorme, mais les difficultés sont encore plus énormes, bien entendu, dû au pays qui est vaste, au réseau, je dirais, de diffusion qui n'existe pas. Donc, il faut quasiment tout créer. L'administration, effectivement, c'est une administration un petit peu obsolète dans sa manière de fonctionner. Donc, elle est plus souvent un obstacle au développement qu'un avantage. Donc, il faut bien souvent se battre contre cette administration.
Alors, quand vous dites qu'il y a un problème avec l'administration, quels sont les problèmes concrets que vous rencontrez dans l'édition et dans la diffusion donc, de ces livres scolaires, faut-il?
Mais les principaux problèmes, c'est une série de taxes qui nous paralysent. Notre objectif, bien entendu, c'est de produire localement des ouvrages et les rendre sur le marché au meilleur prix, au meilleur coût Donc, les premiers obstacles, c'est une administration et une série de taxes qui ne répondent plus à aucun critère. Alors, s'il faut respecter tout ça, on ne fonctionne plus, on vend des ouvrages à des prix extrêmement élevés. Donc, c'est vraiment un problème au niveau de l'État de privilégier la diffusion du livre, de privilégier l'éducation et d'éliminer toutes ces taxes inutiles et qui ne rapportent en réalité pas grand-chose à l'État.
Mais qui vous paralyse.
Qui nous paralyse, bien entendu. Et en dehors de ça, il y a le problème de la formation des gens, de la spécificité de notre domaine, qui fait que, ben, il faut des gens formés qui connaissent le métier, c'est pas toujours évident. Et quand on trouve des gens, on les forme, et il faut pouvoir les garder en plus. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple.
Alors, on voit ici la piste des Congo, par exemple, nouvelle histoire du Congo. C'est de Ndaiwel. Bon, il y a des livres scolaires, mais il y a aussi des livres qui sont plus grand public. Alors, qui achète ces livres ?
Oui, c'est vrai que le marché est beaucoup encore plus restreint par rapport à ces livres. Donc, le premier marché, c'est le marché scolaire. Mais, bien entendu, une maison d'édition a un certain rôle aussi à jouer dans la mesure du possible. Effectivement, un ouvrage, l'histoire du Congo, du professeur Ndaiwel, est un ouvrage important pour l'histoire du Congo. Un ouvrage, il y a les pistes du Congo, il y a Samantha à Kinshasa, qui a été écrite par une jeune Congolaise, romancière, qui a beaucoup de talent d'ailleurs. On a tout intérêt à faire connaître, c'est un ouvrage qui est bien écrit, mais qui peut acheter ces ouvrages? Ça veut dire que si on vend 500 000 exemplaires, on est très content, parce que le marché finalement est extrêmement étroit. Ça veut dire que c'est quelques expatriés, c'est quelques Congolais qui ont un pouvoir d'achat, mais on ne peut pas se limiter à cela. Donc ces ouvrages doivent avoir une vie. Donc nous sommes éditeurs scolaires, nous, à travers les écoles, les institutions publiques, les bibliothèques, nous essayons de faire connaître ces auteurs finalement congolais. On lit les grands classiques étrangers, mais on ne lit pas nécessairement les auteurs congolais. Donc notre rôle aussi est de faire connaître ces gens qui ont un certain talent.
À Kinshasa, il n'y a pas de librairie, à part la vôtre.
Il est très compliqué d'importer des livres, parce que les taxes sont élevées, qui rend le livre au Congo deux fois, trois fois plus cher que ce qu'il est vendu à l'étranger. Donc c'est décourageant, c'est une activité qui n'est pas très rentable. Alors, autre chose... Ça dit qu'il faut financer le stock, il faut financer le fonds de la librairie, puisque un livre qui parcourt 7000 km, souvent par avion, on ne peut pas le retourner. Donc les invendus, il faut les financer. Donc c'est toute cette problématique. Et alors on exerce une activité de libraire dans une ville, notamment, où les loyers sont élevés, où le coût de fonctionnement est très élevé. Donc comment faire de la librairie dans ce contexte? Donc effectivement, nous on a une librairie, mais qui malgré tout reste limité essentiellement à notre production, à ce que nous publions, aux maisons d'édition que nous représentons, et puis aux quelques maisons locales qui produisent de temps en temps des ouvrages. Mais on ne peut pas avoir nécessairement le dernier Goncourt, le dernier prix Rossel dans notre librairie. Il faudrait le financer. Ou bien alors, il faut passer par un système de subvention où on pourrait subventionner une librairie, parce que c'est une activité culturelle, mais fonctionner selon des règles économiques, c'est extrêmement difficile.
Avez-vous des projets ?
La difficulté congolaise, c'est que il est très très difficile de vivre uniquement de l'édition. Lorsqu'il y a des appels d'offres intéressants, il y a des gros éditeurs étrangers qui plongent sur le marché. Et non seulement nous, ça nous tue notre marché, on n'a plus du tout de marché, mais ça nous empêche de nous développer.
Et pourtant, vous êtes là, vous continuez. Alors, pourquoi vous continuez ?
J'aime le livre. Mais bien souvent, pour joindre les bouts, parfois, il faut faire autre chose. Ça veut dire...
Et c'est ce que vous faites ?
C'est ce que je fais, absolument. C'est ce que je fais. Dans le domaine immobilier, ce sont des activités de production dans le secteur de l'agriculture, qui est quand même un secteur important, même si c'est tout à fait un autre domaine. Sauf le mot culture, peut-être.
Autre métier, autre réalité. Voici quelques mois, une étrange équipe prenait l'avion vers le Congo. Ils étaient trois et ils avaient une mission assez inhabituelle, faire exploser un bus à Kinshasa. Mais non, il ne s'agissait pas de terroristes, mais plutôt d'artificiers venus pour les besoins du tournage d'une fiction. Car oui, timidement, le cinéma commence à se faire une place au Congo. Djomunga est un réalisateur congolais et Charline Burton l'a rencontré.
Viva Riva, le dernier long métrage de Joe Munga, est presque terminé. Ne reste plus que quelques détails de post-production à régler et le film sera fin prêt pour être montré dans les festivals cet été. Parmi ces détails, il y a la bande-son qu'il faut fignoler et lorsque nous retrouvons le jeune cinéaste, c'est dans les jardins de son bureau, entouré de musiciens.
Ici, on est avec le groupe Mabel et Lissi, qui est un groupe de l'Équateur. Et donc, je vais remontrer la scène montée aux musiciens et ils vont jouer sur les images.
Ok, silence, merci.
Prise 1 et ses musiques arrivent en fuite.
Après.
Avec Viva Riva, Joe Munga offre un thriller classique dans lequel sont mises en scène un bon, des méchants, une belle, avec en prime de nombreuses courses-poursuites.
Viva Riva, c'est l'histoire d'un jeune homme qui revient après plusieurs années à Kinshasa, qui revient plein d'argent. Mais en fait, on découvre que cet argent n'est peut-être pas à lui. Et ses anciens patrons, qui sont des Angolais et plutôt mafieux, ils le pistent dans différents endroits où il pourrait être. En fait, eux découvrent la ville. Je voulais un peu raconter l'histoire de Kinshasa de jour avec les truands qu'ils poursuivent et de nuit avec Riva qui fait la fête et montrer un peu le monde de Kinshasa.
Riva ! Finalement, je te réclame. Où est mon essence ? C'était pas ton essence ! Je vais la chercher pendant que t'avais ton gros cul collé à ton fouteuil.
Sache que c'est qu'on peut te faire par la suite.
Tu es rien quand tu es arrivé ! J'ai fait de toi ce que tu es !
Arrête ! Du pognon, c'est tout ce que tu voulais. Tu t'es servi de moi comme un esclave, foiré.
Avec cette fiction, Joe Munga signe en quelque sorte la résurrection du cinéma congolais. En effet, le dernier film de cette envergure, La vie est belle, avait été tourné en 1985.
Notre pays n'a pas une tradition cinématographique très importante, comme on peut avoir dans certains pays africains. On va dire les gens d'avant ne sont pas tellement intéressés. On n'a pas d'école de cinéma. En fait, les arts majeurs, on va dire au Congo, sont plutôt dans la musique et la peinture.
C'est un peu par hasard que Joe Munga se lance dans le cinéma et se retrouve sur les bancs de l'INSAS, en Belgique. Lorsqu'il finit ses études en 1999, son pays d'origine est en plein chaos. Le contexte est loin d'être idéal pour faire de Kinshasa la nouvelle Hollywood, mais lui décide tout de même de rentrer. Il commence alors à travailler comme journaliste ou comme producteur exécutif pour des chaînes étrangères venues faire des documentaires sur le pays.
C'est surtout après les élections en 2006 où il y avait une espèce d'ouverture. Sur l'avenir, c'est là que j'ai monté ma boîte de production. Les premières possibilités de production, ou quelque chose qui ressemble à la production, c'était de faire des films sociaux de développement pour des coopérations, des ONG. C'est un peu la chose accessible, parce qu'à l'époque, même encore maintenant, c'est très difficile de monter des projets au Congo. Tout le monde vous dit que c'est pas possible, que ça ne marche pas, que c'est dangereux, que... Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait des documentaires de développement.
Alors, en 2007, il monte une première fiction de 52 minutes. C'est une histoire qui parle de sida et le film est financé entre autres par la coopération belge. C'est à partir de là que les choses commencent à bouger et que les producteurs découvrent qu'il est possible de faire de la fiction au Congo. Mais dans un pays qui ne compte aucune salle de cinéma, à qui Joe Munga veut-il dès lors adresser ses productions ?
Lorsque je pense film ici, je ne me définis pas tant en termes de marché, mais je me définis en termes de qualité d'histoire. J'ai envie de raconter une bonne histoire. Si cette histoire est bonne, j'espère que ce sera un succès. Les gens iront le voir au cinéma, mais il y a aussi les DVD. Les portes sont assez larges.
Pour le succès, le jeune cinéaste semble être sur la bonne voie, non seulement comme réalisateur de films de fiction, mais également comme producteur.
J'ai produit une série documentaire avec quatre jeunes cinéastes congolais qui ont fait un film qui est très beau et en fait qui était accepté à Berlinale, donc un des plus grands festivals au monde. Alors évidemment, on était tout heureux, c'était la grande fête et un des réalisateurs a été invité à venir présenter le film.
Malheureusement, parce que trop jeune, il est considéré comme un potentiel candidat à l'immigration clandestine et l'ambassade d'Allemagne lui refuse le visa.
Mais c'est pas arrivé qu'à Berlin, c'est aussi arrivé à Paris où les deux autres cinéastes du même groupe, du même film, qui a gagné d'ailleurs un prix au Festival du Réel, ils ont été invités. Là, c'est l'ambassade de Belgique qui a dit non. Et donc ça, c'est aussi la réalité du cinéma congolais et des artistes. En fait, vous avez des gens qui ont du talent, les gens d'avenir, en fait, on les empêche de rencontrer le monde.
Face à cette réalité, Joe Munga se console en se disant qu'au moins lui, grâce à ses films, permet au monde de rencontrer le Congo.
C'est ici que se termine notre parcours dans le Congo qui bouge, avec la collaboration de Stéphane Crombin et de Philippe Vanderbeek. Je vous donne rendez-vous chaque samedi pendant tout l'été. Et oui, avec François Reckmans, nous tournerons les pages de son journal d'une indépendance avec des témoins directs de l'époque. Et Afrique Hebdo reprendra son cours normal le samedi 4 septembre. Très bonne semaine à vous tous. Au revoir.
Mokolo ya liboso sima ya lipanga lolanto lotelemaki wole bongwanaki engundele bosembo necholino mai moyibi ya misolo mboka tilaka nyonso epesamaki lelo yo temoni libulu na ngengele.
La multitude d'origine, autant d'ethnies que de coutume, n'empêche le partage d'aspiration commune. C'est
indépendance,
tchatcha,
indépendance, tchatcha,
le jour d'après,
le jour d'après,
Tare et Moja, Julaï,
indépendance, tchatcha,
entre clair, obscur et ténèbres.
Promesse
le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillages et recels, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote. La force du nombre est l'antidote pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. J'ai repris cette chanson fédératrice, symbole de la crédulité des prémices entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse. Mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans.
Indépendance,
se dérobe entre milices et rebelles, pillages et recels, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote, pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. Chanson fédératrice, symbole de la crédulité des prémices, entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse. Mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans.
Indépendance,
indépendance,
indépendance.
Yeah.
quelques heures.